Hop. Ça va démarrer. Ça démarre. C'est démarré. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Salut Pascal, Olek, Samuel. On me reçoit 5 sur 5. Nickel, tout va bien. Sauf un retour son que je coupe. Il y a de la fumée là qui sort, mais ce n'est que monter. Il n'y a pas encore le feu à l'atelier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Eh bien, écoutez, on ne va pas traîner. On va déjà remercier nos contributeurs du jour aujourd'hui. J'aimerais remercier Joris, Réseau, Étienne, Simon et GoBottom. Merci beaucoup à vous, les contributeurs, sans qui Karina ne serait pas là. C'est ça, en fait. Le Tipeee, aujourd'hui. Il y a le feu chez Huawei. C'est effectivement le cas. Mais avant d'attaquer le sommaire, on va laisser un petit peu de temps aux retardataires. Hein, pas trop longtemps non plus, mais en leur laissant un petit peu de temps pour nous rejoindre dans la chatroom. Eh bien, comme d'habitude, nous allons faire notre petite expression désuète du jour. Hein, notre petite formule qui a de plus en plus de succès, qu'on nous envie que la télévision voudrait bien nous racheter, mais c'est hors de question. Aujourd'hui, nous allons voir la définition de l'expression désuète « couler des jours heureux ». Le terme « couler » depuis fort longtemps. Le terme « coule » depuis fort longtemps. Le verbe est passé transitif au XVIIe siècle, où apparut cette expression évoquant un bonheur tranquille et de longue durée. Dans le même ordre d'idées, on peut aussi avoir « cela coulait douce ». Voilà. Donc, voilà, pas plus d'explications que ça, mais nous allons couler des jours heureux. Et demain, nous verrons « être au pied du mur ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Hop, hop, hop. Être au pied du mur, c'est la devise de Trump. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Moi, je connaissais la coulée verte. Oui, je coulais un bon. Non, mais vous êtes charmant dans la chatroom, vous commencez bien. Hmm, ce sont des expressions spéciales Huawei. Oui, on est un peu dans une émission spéciale Huawei. Est-ce que, oui, 117 personnes nous ont rejoints. D'ailleurs, bienvenue s'il y a des nouveaux. Hein, je pense que la vidéo que j'ai sortie en début de semaine, où je vous disais qu'on allait continuer un petit peu les histoires de Huawei en live, en suivant l'actualité, bah, ça a peut-être fait venir des nouveaux dans la chatroom. Donc, les nouveaux, présentez-vous, hein, dites-nous bonjour. Et la Timothée est là pour vous accueillir, ainsi que le reste de la communauté. Donc, bienvenue à vous. Également, j'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent en replay. Je vous oublie pas. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ? Du Huawei, du Huawei, du Huawei. Ouais, ça, on en a, c'est sûr. Huawei de plus en plus isolé, puisque effectivement, c'est Microsoft. Alors, c'est Huawei qui a annoncé qu'en gros, ils auraient plus Windows. C'est pas Microsoft qui l'a dit directement, en tout cas dans les news que j'ai. ARM également, qui coupe les ponts avec Huawei et qui va mettre là pour le coup sérieusement Huawei en difficulté, puisque leur indépendance de processeur reposait quand même sur l'architecture ARM, donc ça va être plus compliqué. On aura également des opérateurs qui lâchent le constructeur chinois, bref. C'est de mal en pis, c'est la bérésina, hein, pour Huawei. On a des réactions chinoises, mais je pense qu'on n'a pas encore la grosse réaction. Donc les choses sont, on est vraiment dans le déroulage de toute cette histoire. Nous parlerons, on changera de sujet, on va pas faire que du Huawei ce matin, on parlera de YouTube qui va modifier l'affichage du nombre d'abonnés et ce que ça risque de changer et pourquoi ils font ça. On parlera également de ce qui s'est passé hier avec Google qui a arrêté d'indexer le web. Est-ce que les bots de Google se sont mis en grève? Et nous terminerons avec un PC mis aux enchères. Eh bien, c'est un PC qui contient les pires malwares du monde. Je me demande s'il appartenait pas à mes parents. Vous verrez ça en fin d'émission. Voilà le sommaire, j'espère qu'il vous va. De toute façon, j'en ai pas d'autre. On va pouvoir commencer. C'est mieux que la saison 8 de Game of Thrones. Game of Huawei. Oh là là, la chatroom est animée ce matin. Huawei, c'est le sujet de discussion à la mode. Bah tant mieux, tant mieux. Comme ça, on va pouvoir en parler. Et bah, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Effectivement, c'était à attendre. Et je sais que beaucoup de personnes m'ont posé la question sous ma vidéo. Ouais, enfin là, on parle d'Android qui arrête avec Huawei. Quid des Matebook de chez Huawei, les PC que fait Huawei, est-ce qu'ils vont avoir droit à Windows? Eh ben non, puisque effectivement la presse a rapidement obtenu donc des informations sur le cas Google, qui ne pourra plus accorder la licence Android à Huawei. Microsoft est resté silencieux, mais dans un échange avec Richard Yu, qui dirige Huawei dans toute la branche dédiée aux produits grand public, il a affirmé qu'il ne comprenait pas cette décision qui prive Huawei de Microsoft, Windows, Google Android et des produits Intel. Donc il a un peu dit, oui, ben en fait, on n'aura pas Windows. Donc il a un petit peu déclaré, Microsoft a priori ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, mais c'est évident que si Google doit arrêter de travailler avec Huawei selon le décret américain, hein, pour obéir au décret américain, ben toutes les entreprises américaines vont devoir couper les ponts avec Huawei. Je vous rappelle, pour ceux qui ont vécu sous un caillou ce début de semaine et qui sont au courant de rien, tout ça vient du fait que effectivement Huawei a été ajouté à une liste par décret. Cette liste qui contient effectivement des entreprises souvent ayant trait au terrorisme ou avec des problèmes de sécurité d'État. Dans le cas de Huawei, c'est parce que Huawei est accusé d'espionnage. Donc à partir du moment où Huawei est ajouté à cette liste américaine, les entreprises américaines n'ont plus le droit de travailler avec. Sinon, ils sont fusillés. C'est pas dit comme ça, mais on n'en est pas loin. Donc, effectivement, Microsoft n'a plus le droit de travailler avec Huawei. Il peut plus lui fournir Windows 10, ses mises à jour et ses licences. Alors, ça veut pas dire si vous avez un Matebook que votre Matebook va arrêter de travailler dès aujourd'hui. J'en vois certains dans les entreprises commencent à se dire « Patron, je peux plus bosser, j'ai un Huawei ». J'ai lâché, il n'y a plus rien. Non, il continuera à fonctionner, c'est les mises à jour, et c'est surtout la sortie des futurs Matebook et des futurs produits PC de Huawei qui est mise à mal et très compromise. Alors, raison gardée, hein, je vais vous refaire exactement ce que j'ai dit quand on faisait le live Honor avec Frandroid. Que bah, pour le coup, Honor est aussi dans le panier, hein, puisque c'est une sous-marque de Huawei. Moi, en tout cas, mon analyse de la situation, là, effectivement, ça ressemble à une descente aux enfers pour Huawei. On se demande bien comment ils vont s'en sortir. Il y a eu des réactions de Huawei. Ils ont dit « Ah, mais on va se débrouiller tout seul ». Ça commence à devenir de plus en plus dur. Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que même si nous, on voit ça, là, c'est des gros coups de butoir, et on a l'impression que c'est des attaques thermonucléaires sur Huawei. Je pense quand même que c'est encore dans la négociation. Donc cette histoire n'est pas finie. Il est possible qu'il y ait... Là, on sait déjà qu'il y a du délai. En tout cas, dans le cas, on a eu la confirmation dans le cas d'Android, 3 mois de délai. Je pense que des discussions sont entamées et que de la part de l'administration américaine actuelle, ils ont fait ça parce qu'ils n'arrivent pas à négocier avec Huawei et c'était une manière de leur tordre le bras pour leur dire bon, on discute ou on discute pas. Parce que si on lit vraiment ce qui se passe entre l'administration américaine et le groupe Huawei, il y a un petit jeu de poissons fuyants de la part de Huawei qui refuse finalement un petit peu de négocier, de s'engager fortement, hein, par écrit, à ne plus espionner. On sait aussi, il y a de la mauvaise foi du gouvernement américain et c'est simplement des manœuvres anti-concurrents. Chacun a son avis là-dessus. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que là, on a des choses très définitives et je vois et je lis beaucoup de trucs. Huawei est mort. Oui, j'aurais dû mettre ça en vignette, effectivement, sur ma vidéo. J'aurais peut-être fait plus de vues. Non, je pense que c'est encore en négociation. Déçu par Google, mais c'est pas la faute de Google, Dayan. Google est obligé. Je veux dire, toute entreprise américaine, et Google est une entreprise américaine, n'a plus le droit de travailler avec Huawei. Je pense pas que Google, ni Microsoft, ni les autres, arrêtent de travailler avec Huawei de gaieté de cœur. Mais c'est ça où ils se prennent leur propre gouvernement dans la gueule. Ça va peut-être d'ailleurs conditionner certaines choses par rapport à ces entreprises qui, pour certaines, et on le sait depuis quelques années, en ont un peu marre de cette tutelle américaine. Et il n'est pas exclu, effectivement, que des gros groupes américains commencent à se dire « Nous, on fait un business avec le monde entier. » Bon, après, une entreprise doit toujours être localisée quelque part, hein. Oui, moi je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, à long terme, c'est pas une bonne idée ce que fait le. Ça veut pas dire qu'il. Alors, même si on part de l'hypothèse qu'il y a un espionnage avéré de la part de Huawei, je pense que la méthode américaine, elle est très efficace à court terme. Elle plaît à l'électorat d'administration actuelle américaine. C'est une réponse simple à un problème complexe. Ça fait genre, nous, on n'a pas peur des Chinois, mais je pense qu'à long terme, les résultats seront désastreux. Mais je pense que l'administration américaine actuelle en a rien à foutre du long terme. Voilà, c'est mon opinion. Je sais que certains d'entre vous, et ils me l'ont mis dans les commentaires, etc., ne sont pas d'accord avec mon analyse et m'accusent d'être anti-Trump. Je n'aime pas l'administration Trump, c'est mon avis personnel. J'essaye, et c'est pour ça que je parle de plus en plus souvent de l'administration, sans mettre Trump derrière, de parler des faits. Voilà. Ou je pense pas qu'on puisse parler d'une fourmi, un bazooka pour écraser une fourmi. Non, non. On est dans un grand bras de fer. Mais l'administration américaine actuelle a quand même énormément comme théorie que la fin justifie les moyens. Et quelque part, ils ont raison. D'un point de vue économique et au niveau de l'électorat de cette administration, ça plaît beaucoup. L'économie américaine va bien en ce moment. L'électorat traditionnel de cette administration est super contente et va probablement réélire le président en exercice. C'est à long terme que je m'inquiète beaucoup plus pour d'ailleurs la technologie dans son ensemble. Ça va créer des défiances qui resteront longtemps après que cette administration soit partie. Oui, alors, c'est ce que beaucoup d'entre vous disent et pensent. Effectivement, on pousse finalement Huawei à devenir indépendant, à développer son propre Android, mais il faut quand même que vous rendre compte que développer son propre Android, c'est pas si simple. Et développer son propre Windows, ça va pas être si simple. Et je ne parle pas que de la durée. Déjà, dans la durée, ça va mettre beaucoup de temps quand même. Même si je sais que les Chinois sont très forts et qu'ils ont certainement préparé des choses et tout ça, convaincre le public chinois, c'est une chose. Convaincre le reste du monde que leur système est aussi bien que les systèmes qu'on utilise depuis pas mal d'années, ça va pas être une mince affaire. Bref, on continue dans les news, puisque effectivement, j'en vois certains dans la chatroom qui en parlent déjà. Ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là, puisque c'est ARM, enfin ARM, qui coupe les ponts avec Huawei et met le fabricant vraiment en difficulté pour le coup. Enfin, on peut dire qu'il l'était déjà, hein, mais yep. Là, effectivement, le géant britannique des semi-conducteurs ARM, propriété du groupe japonais SoftBank. Donc là, ça vient pas des États-Unis, c'est la Grande-Bretagne, hein. aurait, selon la BBC, demandé à ses employés de mettre un terme à toute activité en lien avec Huawei. Une décision étonnante dans la mesure où l'interdiction américaine ne vaut que pour les entreprises américaines. Et là, c'est une entreprise anglaise. Mais pour les dirigeants d'ARM, il s'agirait avant tout d'une précaution nécessaire dans la mesure où certaines de leurs puces sont développées aux États-Unis. Là où c'est très grave, dans le cas d'ARM pour Huawei, c'est que le constructeur chinois utilise les architectures ARM sous licence pour la production de ses processeurs Kirin, par l'intermédiaire de sa filiale HiSilicon. Avec cette décision de la société britannique, l'entreprise pourrait se retrouver dans l'impossibilité de produire ses propres puces à destination de ses terminaux. Donc là, un des, je dirais, piliers d'une éventuelle future indépendance de Huawei s'effondre, puisque ça faisait déjà un certain temps que Huawei faisait ses propres processeurs, donc indépendance par rapport... Attention, hein, je parle du processeur, parce qu'on sait, par exemple, au niveau des modems, ils sont encore dépendants de Qualcomm. Hein. Et ben là, ils vont plus pouvoir développer leur Kirin. Donc, ça, c'est un gros coup. Peut-être un gros coup auquel Huawei ne s'attendait pas, parce que la position de la Grande-Bretagne, elle est mi-figue, mi-raisin avec Huawei. D'un côté, ils ont pas complètement signé, ils sont pas complètement mis dans le camp des États-Unis contre Huawei, comme a pu le faire par exemple le Japon. Mais d'un autre côté, et on le sait d'ailleurs que ça a tremblé à la tête de l'État en Angleterre, puisque le ministre de la Défense s'est fait limoger à cause de ça, il y a un débat dans l'administration anglaise sur est-ce qu'il faut adopter la position américaine à 100% ou pas. Richard, après, tu nous dis, après pour ARM, il y a deux types de licences ARM, juste le jeu d'instruction ou l'architecture entière. Huawei peut utiliser que le jeu d'instruction et refaire l'architecture. Ah, j'avoue que je n'ai pas ce niveau de détail granulaire sur l'information. Je pense que, bien évidemment, je suis d'accord avec vous, la Chine a les ressources pour devenir autonome. Mais d'abord, c'est une mauvaise nouvelle, hein. Je pense que c'est mauvais pour la technologie qu'on ait des pays qui concentrent finalement toutes les compétences. C'est mauvais pour l'économie, hein, toutes les économies, même la chinoise, je pense. Et surtout, ça va prendre du temps. Donc, il risque d'y avoir un passage à vide pour Huawei qui risque quand même d'être assez costaud, hein. Je suis pas d'accord avec vous. L'Angleterre ne suit pas aveuglément, justement, à propos de la 5G. L'Angleterre a dit qu'ils allaient utiliser des équipements Huawei, sauf sur leur point stratégique. Donc, ils n'ont pas suivi la demande de l'administration américaine à ses alliés de faire comme eux, de bannir Huawei à 100%, quoi. Oui, il y a la fameuse histoire des terres rares, mais les terres rares continuent à lire parce que il y a aussi le Japon, hein, qui a trouvé des minerais, un forage de terres rares dans ses eaux territoriales. Donc de dire que la Chine peut couper l'accès aux terres rares et faire s'effondrer toute la technologie occidentale, pas si simple non plus. Mais effectivement, là, on est en plein milieu. On a l'impression d'être dans Pacific Rim, quoi. Vous avez chacun balance ses gros robots et se balance des gros nions dans la gueule. Là, on n'est plus dans de la menace, on est dans des coups de poing. C'est une négociation à coups de poing. On va voir si Huawei va tomber KO, ce qui va se passer, les conséquences. Tout ça est en train de se dérouler, hein, donc on peut faire des hypothèses, on peut en parler, c'est sympa et tout, mais d'abord, une réaction chinoise ordonnée pour l'instant n'a pas encore eu lieu. Je pense que pour l'instant, ils se prennent les coups dans la gueule. Il crache quelques dents et crache un petit peu de sang. Mais je pense que la Chine et Huawei n'a pas dit son dernier mot hein, dans cette histoire. C'est clair. C'est clair. On termine justement dans les news pour Huawei, hein, puisqu'il y en a un petit peu toutes les heures. Mais c'est plusieurs géants japonais et britanniques des télécoms qui ont annoncé mercredi qu'ils allaient se passer pour l'heure des équipements du grand chinois des smartphones. Donc là, c'est sur le marché de la 5G, le déploiement de la 5G dans le monde. Cette décision, effectivement, des États-Unis de placer Huawei sur cette liste noire provoque un effet domino et plusieurs géants japonais et britanniques des télécoms ont annoncé mercredi qu'ils allaient se passer pour l'heure des équipements. Le pionnier NTT.com a indiqué stopper les commandes d'un téléphone Huawei qu'il prévoyait de lancer cet été, sans pour autant préciser s'il différait ou non sa commercialisation. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a les opérateurs historiques EE et Vodafone qui ont exclu les smartphones Huawei compatibles 5G de leur précommande en amont du lancement de leurs réseaux respectifs dans les semaines à venir. La commercialisation ne reprendra que quand nous aurons l'assurance à long terme que nos consommateurs qui achètent ces produits seront soutenus tout au long de la durée de vie de l'appareil. Et vous pourrez lire, hein, il y a un certain nombre d'opérateurs et j'ai envie de dire aujourd'hui beaucoup de gens, et alors des gens m'envoient des mails, des trucs sur Instagram, j'en reçois de tous les côtés. Est-ce que je dois acheter quand même un MateBook? Est-ce que je dois acheter le dernier Honor? Je viens d'acheter le P30 Pro. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois est-ce que je dois le renvoyer, etc. Je vais vous dire, tout ça a des conséquences même pour nous testeurs de produits sur YouTube. Moi, par exemple, j'avais normalement dans les tuyaux de vous faire un comparatif entre le P30 Pro et le S10 de Samsung. On avait commencé à tourner les images et tout ça. Pour l'instant, j'ai mis ça en stand-by. J'ai mis ça en stand-by parce que il est trop tôt pour dire n'achetez pas du tout, c'est fini. Les négociations peuvent aboutir à des résultats constructifs, mais aujourd'hui, je vais être complètement honnête et complètement transparent avec vous, je vous conseille pas d'acheter du Honor, du Huawei. Aujourd'hui, si vous deviez cliquer sur le bouton d'achat, non, il y a encore trop de choses en suspens, vous risquez d'avoir pas votre produit briqué non plus, il fonctionnera, mais d'être pénalisé à moyen long terme avec votre produit. Donc, en mon âme et conscience, non, je dis attendez. Après, Dayon, je suis assez d'accord avec toi. Si vous êtes malin et un peu téméraire, à mon avis, il va y avoir des baisses de prix sérieuses sur les produits Huawei. Si vous misez sur le fait qu'ils vont trouver des arrangements, qu'ils vont s'en sortir et tout ça, à mon avis, il y aura du smartphone et du MateBook pas cher. Donc, à suivre. Pièce de collection. Oui, à la limite, ça. Non, mais d'abord, vous le savez parce que vous êtes des technophiles et certains vous le disent dans la chatroom. Vous savez comment... Enfin, on vous dit interdiction d'installer Android. Enfin, vous savez faire. Il y a des ROM alternatifs. Enfin, on a des solutions. Là, on parle finalement de décisions pour le grand public. Grand public, si elle peut pas installer Android, elle peut pas installer Android. Elle saura pas contourner. J'en vois qui partent dans les commentaires de ma vidéo dans des grands trucs. Mais on peut tout à fait installer soi-même et très facilement son truc alternatif. Il suffit de flasher le truc, d'appuyer en même temps sur les trois boutons, de faire trois tours sur soi-même. Vous posez un petit peu de caca dans les quatre coins de votre pièce. Vous invoquez le dieu de la pluie et ça se passera bien. Et oui, il y a toujours des solutions. Vous y connaissez suffisamment pour trouver des solutions. Donc, ça peut être effectivement une bonne occasion d'acheter du P30 ou du smartphone ou de l'ordinateur Huawei et derrière de le bricoler pour y installer ce que vous voulez, quoi. « Alors effectivement, Olivier, je pense que ça sera dans les news de demain, il y en avait déjà quelques-unes. Le coup est très rude pour Apple. Le boycott d'Apple en Chine, voire l'interdiction d'Apple en Chine, parce que ça, la Chine peut très bien dégainer ça. Ça va faire très très mal aussi, dans l'autre sens. Alors certains fanatiques anti-iOS, dans les commentaires de ma vidéo, mais finalement, c'est très bien. Ça va faire du mal à Apple, tout ça. Donc c'est bien. J'ai une vision du mec, tu sais, assis sur un tas de cendres, le monde a explosé. Et il dit, ah, finalement, c'est bien, on a moins d'Apple. Bon, tout le monde est mort, mais il y a moins d'Apple. Donc c'est bien. Attention au fanatisme. Ne soyez pas aveugles. C'est une guerre économique, c'est une guerre géopolitique, c'est une guerre d'influence, c'est une guerre qui va conditionner les 50 ans à venir. Hein. Fin d'une certaine hégémonie américaine, montée en puissance de la Chine très significative. En gros, et pour être très schématique, c'est une bataille pour qui sera le nouveau leader économique des 50 ans à venir. C'est pas l'Europe, déjà. Mal barré, en tout cas. Ou alors, on cache une technologie en Europe qu'on n'a pas encore dévoilée au monde, mais qui va tout ravager. Ah bah, après, tu sais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est bien évident. Et je parle même d'autres marques chinoises. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles pour le Pixel de Google, c'est des bonnes nouvelles pour Nokia, c'est des bonnes nouvelles pour OnePlus, c'est des bonnes nouvelles pour Xiaomi, c'est des bonnes nouvelles pour... Parce que là, pour l'instant, en tout cas, c'est que Huawei qui s'en prend plein la gueule. Après, je pense quand même qu'à moyen terme, ça, dans l'esprit du grand public, ça risque de créer une défiance sur l'ensemble des produits chinois. Après, il y a des marques qui sont très fortes pour cacher leur ADN chinoise, on va dire. Je suis certain que tu demandes dans la Fnac si y a quelqu'un qui vient de s'acheter un Honor, s'il sait que c'est une marque chinoise, ou un OnePlus, ou un DJI, ou ce genre de choses. Mais non, ça m'a l'air plutôt américain. C'est écrit en anglais sur la boîte. Samsung aussi, oui, c'est une bonne nouvelle. Ils en avaient besoin de bonnes nouvelles, Samsung. Bref, voilà pour la Bérésina Huawei. Ça va de mal en pis. Tout peut changer à la prochaine news. Ça va être le feuilleton, je pense, de ce printemps. Huawei et la Chine, hein, derrière, contre effectivement les États-Unis et le reste de l'Occident. Hein. C'est un petit peu ça. N'oublions pas non plus que la Chine détient majoritairement les data. Oui, non, non, mais bon, on va pas faire se lancer dans un grand dossier du pouvoir de la Chine actuelle et dans le rapport de force. Faut pas sous-estimer non. En fait, c'est ce que je vous disais à la fin de la vidéo. Faut éviter tout ce qui est manichéen. Les États-Unis ont aussi des leviers de puissance. Ces deux économies très interdépendantes. Et qui ont toutes les deux des envies de protectionnisme. Mais comme tout protectionniste, il a envie de lui faire du protectionnisme et que les autres le fassent pas. Parce que sinon, c'est quand même un peu relou. En gros, achetez mes produits quand même, mais par contre, moi, j'achète pas les vôtres. C'est une grande constante des protectionnistes à travers le monde, c'est que America ou n'importe quel autre pays first. Par contre, les autres pays, hein, continuez avec vos frontières ouvertes et à nous vendre des produits. Oh, puis non, vous taxez pas nos produits. Merde, on a le droit d'exporter quand même. Oh, hein? Un peu ça le problème. Il y a un peu le côté manger à tous les râteliers, hein, dans le protectionnisme. Hein. On le voit, je suis désolé, je fais un parallèle, mais on le voit un peu dans les envies de l'Angleterre et le Brexit. Ils voudraient le Brexit et l'argent du Brexit. Les bénéfices de l'Europe sans les à côté de l'Europe. Il y a quand même cette envie-là. On en a déjà parlé, hein, Yann, de l'espionnage. Pour l'instant, c'est pas avéré. C'est pas avéré. Voilà. Cette histoire, effectivement. Ils veulent des licornes. Ouais. Les Chinois ne considèrent pas Taïwan comme un État indépendant. Oui, bah, si on commence à parler de Taïwan et tout ça, on n'a pas fini. Hein. Je fais du drift dans les graviers. Oui, bon, je donne un éclairage sur le dossier. Allez, on passe à autre chose. On passe à autre chose de plus léger, hein, carrément plus léger, mais qui a quand même une importance pour vous et pour moi aussi. Puisque YouTube a décidé de modifier l'affichage du nombre d'abonnés. Et cela risque de changer beaucoup de choses. Ça ne vous paraît rien, mais je vais vous expliquer. Effectivement, aujourd'hui, l'affichage du nombre d'abonnés sur YouTube, vous voyez le chiffre complet. Hein, c'est celui qui s'affiche... Attendez. Si je l'ai... Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de tout dérégler. Voilà, notre nombre d'abonnés à la chaîne principale qui est affichée là. Donc, vous voyez à l'abonné près le nombre d'abonnés que nous avons. En fait, ils voudraient pas, ils vont le faire. Maintenant, les abonnés seront présentés avec un K, c'est-à-dire un chiffre beaucoup plus petit. On le voit un petit peu dans ce gif que je vais vous montrer, que vous compreniez mieux ce que je suis en train de dire. Voilà, 15 M pour 15 millions, 7,2 M et 4300 quelque chose deviendra 4,3 K. Donc l'idée en fait derrière cette modification, c'est qu'on s'est aperçu effectivement que cette course à l'abonné pouvait être toxique et que c'est pas une donnée si importante que ça et que ça a donné lieu à des dérapages. Ça s'inscrit en fait dans une démarche de l'ensemble des réseaux sociaux et des acteurs du secteur avec cette envie aussi d'enlever les likes. Tous ces choses qui ont tendance, un, à transformer le contenu très vite en trash contenu, hein. On le voit bien sur YouTube et je suis le premier à le regretter, mais YouTube aujourd'hui favorise, moi j'appelle ça du diarrhée content, hein, pour être poli, c'est du contenu pré-mâché, pré-dégéré, liquide, très facile à produire, qu'on peut sortir tout le temps comme ça, mais qui pue la merde, on va pas dire les choses autrement. C'est très marrant parce qu'en ce moment je regarde un documentaire sur les années 80 et la télévision américaine qui a dû lutter effectivement contre une trash TV, une télé de plus en plus déplorable qui ne faisait plus que des trucs sensationnalistes et dégueulasses et des talk shows où les mecs s'échangeaient des nions parce que ça marchait, quoi. Et effectivement, ça a donné alors des dérapages. PewDiePie versus T-Series. Alors certains se sont pris un petit peu trop effectivement au jeu de cette comparaison entre PewDiePie et T-Series. Ça a donné quelques débordements, mais globalement, moi personnellement, je trouve que c'est resté bon enfant. Mais c'est plutôt le climat que ça instaure, un climat extrêmement compétitif entre grosses chaînes YouTube. Mais du coup, ça va être compliqué pour les petites chaînes parce que du coup votre compteur ne va vraiment changer que quand vous passerez des grands caps en fait. Et que par exemple une chaîne qui a c'est là où c'est pas très clair l'article de Numérama et que j'ai pas bien compris, eux ils disent effectivement que une chaîne par exemple quand elle a 1000 abonnés, il faudrait qu'elle attende 2000 abonnés pour avoir le 2K, mais d'après le gif que j'ai vu, on aura quand même 1,5K, 1,7K. On verra quand même une progression. C'est plutôt sur les, on va dire, les dizaines qu'on ne verra plus la progression, ou les centaines. Effectivement, Social Blade, qui est très connu, hein, des youtubeurs et des influenceurs, qui est justement quelque chose qui contribue à cette ambiance compétitive, parce que vous le connaissez pas, Social Blade, mais c'est un truc qu'on utilise tous, et moi le premier, qui va vous donner un ranking, en fait, de votre chaîne par rapport aux autres, à vos concurrents, vos performances, et vous attribuer une note. Un petit peu, voilà, on peut avoir une chaîne A+, une chaîne A-, une chaîne B+, une chaîne B-, et c'est des arguments pour aller vendre sa chaîne après dans des opérations sponsoring. Donc il y a tout un market autour de ça. Jusqu'ici, Social Blade avait effectivement accès à travers l'API à un décompte très très précis du nombre d'abonnés. A priori, ils n'auront plus. En tout cas, c'est ce que dit l'article. Ce décompte très, très précis. Il n'y aura que le YouTuber qui aura ce décompte, qui sera visible, quoi. Les likes qui disparaissent, je trouve ça vraiment honteux. Ben, je suis pas d'accord avec toi. En fait, les likes, pour moi, ne servent à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il n'y a même pas 1% des gens qui utilisent spontanément les likes pour dire qu'ils ont aimé une vidéo. Et les likes, en fait, ne servent qu'à un certain type de vidéo qui va prendre en otage ses visionneurs. Et je l'ai fait une fois, hein, moi, dans ma vidéo de l'Apple Watch, de dire « Je vous ferai une vidéo supplémentaire si on atteint un tel niveau de likes. » Et en fait, je trouve ça gerbant. Et ça sert, en fait, qu'à ça, les likes. Et les seules chaînes qui finalement ont beaucoup de likes, c'est des chaînes qui ont un peu forcé leurs visionneurs à faire le like ou qui ont conditionné le like. Si j'ai tant de likes, je ferai telle chose, quoi. Et c'est une pratique très très répandue, hein, sur YouTube. Et je trouve ça, et pour vous dire, oui, je l'ai utilisé parce que moi, je suis dans le même champ de bataille, hein. Il faut bien que j'essaie de me défendre aussi et de faire progresser la chaîne. Mais je trouve que pour le coup, le like n'a aucun sens. Je trouve, pourquoi il a aucun sens? C'est parce que d'abord, les gens ne l'utilisent pas spontanément pour dire quand ils sont contents ou même mécontents. Même pas 1% des gens l'utilisent. Et quand on dépasse ce 1% des gens, c'est uniquement en vous prenant en otage. Et donc, ça veut rien dire. En fait, les dislikes jouent un rôle, oui et non. Disons que toutes, ça il faut que vous le sachiez, pour les chaînes que vous aimez et que vous voulez encourager, toute interaction que vous aurez avec une vidéo compte. Que vous laissiez un commentaire, que vous laissiez un like, que vous la partagiez sur n'importe quel réseau, c'est considéré comme une interaction avec la vidéo et ça plaît aux algorithmes YouTube. Donc si vous voulez soutenir une chaîne, regardez et agissez avec la vidéo, partagez-la. Et vous dites pas, mais je vais pas la partager, j'ai 2 followers sur Twitter. Ça compte 2 followers sur Twitter, même si c'est 2 bouts qui s'appellent Natacha et Tatiana. Hein, ils ont peut-être envie de regarder votre vidéo. Donc, encore une fois, hein, je répète mon leitmotiv, ce que vous regardez, vous votez pour. Si vous en avez marre du contenu de merde, arrêtez de le regarder, je vous en supplie. Si vous trouvez qu'un YouTuber tombe dans la facilité, qu'il fait des choses qui vous déplaisent, ne regardez, ne cliquez pas, ne regardez pas son contenu. Et ça vaut pour moi. Quand vous n'aimez pas les tendances que prennent la chaîne, arrêtez de me regarder. Hein, si vous voulez m'envoyer un signal fort, arrêtez de me regarder. Par contre, si vous voulez soutenir des chaînes qui ont du mal à exister, et au lieu de nous dire « Ah, mais tu mérites plus d'abonnés », eh ben partagez-nous, likez-nous, faites la promotion du contenu, aidez ces chaînes-là. C'est vous qui créerez le contenu. Vous aurez le contenu que vous méritez. Voilà. En gros, c'est ça, hein. Après, on peut pas juger une vidéo si tu la regardes pas. Ce que je vous dis, c'est d'arrêter de regarder une vidéo tout en sachant que ça va être de la merde, mais parce que ça fait appel à vos bas instincts de voyeur. Et me dites pas que c'est pas vrai. Je le fais aussi. Et maintenant, je me donne une tape sur la main quand je le fais. Ou je me mets une tarte dans la gueule. Il m'arrive encore aujourd'hui de cliquer sur des contenus où je sais sciemment, parce que je le connais bien, le youtubeur, que je vais voir de la merde. Mais je regarde parce qu'il m'a eu avec son titre putaclic. J'ai envie de regarder rien que pour me dire « Ah, j'avais raison, c'est de la merde !» Comme c'était Blanche Gardin qui disait « Mais t'es merdologue en fait ?» Et combien de personnes disent « Ah, je regarde telle émission à la télé ou sur YouTube. » C'est de la merde, je le sais, hein, mais je regarde pour m'en moquer, quoi. Arrête de regarder de la merde. Tu as bien regardé la dernière vidéo Peak Design ? Alors que tu avais déjà des trépieds. Ah, mais moi, j'adore leurs vidéos, Peak Design. Je vais te dire, Peak Design, pendant toute la durée du crowdfunding, je vais regarder la vidéo au moins une dizaine de fois. Tu vas pas me dire, ah, il est bientôt à moi, et tout ça. Et leurs vidéos sont super bien chez Peak Design. C'est pas de la merde. Oui, ben voilà. Ouais, le Jean-Pierre Coff de YouTube, c'est moi. Je veux dire, on peut se plaindre, par exemple, du contenu de Lama Fâché, mais Lama Fâché a raison, ça marche, qu'il fait, quoi. Je connais pas, honnêtement, je connais pas, parce que vraiment, je regarde pas. Mais ça marche du feu de Dieu, ce qu'il fait. Parce que les gens regardent, ne serait-ce que pour dire que c'est de la merde. Bref. Bref. En tout cas, tout ça montre en tout cas qu'il y a une prise de conscience. Moi, je suis fasciné par tout ça parce que, encore une fois, hein, si vous avez l'occasion, alors le problème, c'est que ces documentaires sont disponibles que sur le Netflix US. Me demandez pas comment je les regarde. Mais il y a une série de documentaires sur les années 70, 80, 90, et notamment sur les productions télé. Et c'est très marrant de voir les similitudes avec ce qui arrive avec YouTube en ce moment, quoi. La dernière nouvelle, Huawei a racheté les hôtels de Trump. Il gagne sur tous les tableaux, alors. Les dislikes peuvent te mettre aussi en tendance. Oui, tout à fait. En tout cas, l'algorithme de YouTube... Bon, après, quand tu as une vidéo qui a plus de dislikes que de likes, mais justement, ça a donné lieu à des campagnes de dislikes, bah, ça met ta vidéo en valeur, pas d'une façon forcément positive, mais ça la met en valeur. Et effectivement, les gens vont aller voir pour se dire « Mais pourquoi il a autant de dislikes ? Qu'est-ce qu'il y a donc ?» On a quand même cette fâcheuse tendance à dire « ça pue la merde, mais je vais mettre mon nez dedans hein, pour en être sûr. Hein. » Avouez quand même qu'on a un petit peu cette tendance-là. Ah là 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 là. Allez, on continue, mais c'est intéressant de voir ce que YouTube essaye de faire pour arriver à un nouveau type de contenu. Et à faire remonter du contenu de qualité. Allez, article suivant. Samuel, le tourneur de page de Techscope. Google a arrêté d'indexer le web. Eh ben ouais, Google s'est mis en grève, non ? Hier, il y a eu effectivement un gros problème. Les référenceurs de plusieurs pays ont remarqué que Google n'affichait aucun résultat parmi les contenus publiés depuis le 22 mai en fin de matinée. Ils soupçonnent un nouveau bug d'indexation. Alors, je vous ai pas fait les news sur les autres, mais effectivement... On ne sait pas ce que Google est en train de trafiquer. L'indexation, c'est quoi ? Alors, peut-être que vous ne savez pas. Le web, et la partie Google, le web, une partie énorme, repose sur l'indexation des sites qui permet, effectivement, chaque fois que vous faites une recherche, de faire une remontée d'informations par rapport à cette indexation. Cette indexation est faite par des bots, des robots, des programmes robots, des... comment on appelle ça? Ah, j'avais le mot tout à l'heure. Des crawlers, des trucs rampants qui... en fait, à chaque seconde, vous avez des petites araignées qui se baladent sur le web de partout et qui reniflent des trucs et qui font remonter l'information. Voilà. Voilà. C'est comme ça que ça marche, en fait. Le web, c'est des araignées. Vous ne le saviez pas, vous l'avez appris dans Techscope. Eh ben, et... Alors vous dites, oh, c'est pas très grave, mais si c'est très grave, ça veut dire que tous ceux dont le business c'est de faire de la news, leur info ne remontait pas. Donc les gens cherchaient, qu'est-ce qui se passe avec Huawei ? Et boum, ils trouvaient rien que des articles de la veille. Donc tout un pan de l'économie souffre pendant une journée et ça peut être catastrophique. Donc l'incident effectivement a commencé dès le matin. En France, on a vu effectivement c'était qui disait ça ? François Moreau de 20 minutes constate désormais davantage de trafic obtenu depuis Facebook que depuis Google, une première depuis bien longtemps. Le trafic s'effondre donc sur les sites dont les audiences reposent sur du contenu frais, en fait. Donc tout ce qui est news et tout ça, hier, c'était la cata. Et en plus, c'était un jour où il y avait quand même des news et de la recherche, hein. Ah bah c'est là, hein, on s'aperçoit aussi des araignées truffières. C'est très très joli ça, Paladin Bleu. On s'aperçoit de l'importance de Google et de d'à quel point on est dépendant et des pans économiques dépendants. C'est pour ça que des solutions à l'emporte-pièce. Hein, mais après, il faut aussi être réaliste. Oui, Google aujourd'hui a la main mise. Et de par les systèmes qu'ils ont développés sur le fonctionnement économique du web, ouais, on peut pas arrêter Google comme ça, hein. Sinon, il y a beaucoup beaucoup de choses qui s'effondrent. C'est dingue l'impact que Google peut avoir. Bah oui, c'est absolument énorme. Les choses ont commencé à se résorber et à 19h21 hier, les choses rentraient dans l'ordre. Google communique pas trop là-dessus. Ils ont fait un tweet vers 15h pour dire on a vu, on a un problème là, les araignées. Comment dire ça ? Il y a un con chez nous qui a sorti une bombe d'insecticide, hein, et voilà le résultat. Nos araignées truffières ne travaillent plus. Voilà ce qu'on dit, très sérieusement. Non, je déconne. Mais Google a dit, oui, on a un problème, on est dessus. Mais depuis, ils n'ont pas trop communiqué. Ils n'ont pas vraiment donné la raison. On sait juste, parce qu'il y a déjà eu des problèmes comme ça d'indexation ces derniers temps, que manifestement, Google a les mains dans le cambouis et c'est probablement encore un changement de l'algorithme de Google qui, bon, ils en font tout le temps, mais là, ça risque d'être un changement assez profond sur les méthodes même d'indexation de Google. C'est fou que les États-Unis ne démantèlent pas Google pour cette seule raison. Enfin, Grégory, s'ils démantèlent, c'est le web qui s'effondre, hein, là. Encore la faute de Monsanto. C'est vrai que le présentateur de Peak Design est un peu monotone. Le mec à la fin de la vidéo, c'est le patron de Peak Design. Oui, c'est pas le meilleur présentateur du monde. Encore un coup des requins-guêpes. Toujours les requins-guêpes. Toujours méfiez-vous des requins-guêpes. Alors là, il y a des nouveaux dans la chatroom qui sont... Mais qu'est-ce qui... Il est fou ce mec, quoi. Il nous parle des araignées truffières du web. Et c'est quoi cette histoire de requins-guêpes ? Désolé, hein, c'est de la private joke. Suivez-nous, au bout d'un moment, vous serez mis au jus. C'est de la private joke des anciens de l'émission. J'espère que tous les grands producteurs de smartphones chinois se mettent tous ensemble pour créer un OS mobile et l'internationaliser par la suite. Ça va pas être si simple que ça. Le présentateur de Peak Design, c'est pas Jérôme. J'aimerais bien. qui me paye. Bref. Allez, on continue et on termine avec effectivement une enchère pas banale, puisque un PC portable Samsung NC10 15Go 10,2 pouces bleu est mis aux enchères et pour l'instant, il est à la somme $1,130,500. What? Pourtant, un vieux portable comme ça, ça vaut pas ce prix-là. Hein, vous parlez en une monnaie très dévaluée. Eh bien, en fait, ce portable a une spécificité importante. Il contient non moins que les 6 malwares les plus dangereux du monde sur son disque dur. I Love You, My Doom, So Big, Dark Tequila, Black Energy ou encore le terrible WannaCry de 2017. on dirait une équipe de catcheurs, tu sais. I Love You, My Doom, So Big, Dark Tequila, Black Energy ou WannaCry. Bref, ces 6 virus et autres malgiciels ont causé plus de $95 milliards à eux seuls. Ce PC contaminé a été mis aux enchères comme une œuvre d'art intitulée « La persistance of chaos », « La persistance du chaos ». Avant d'enchérir, les acheteurs potentiels doivent obligatoirement promettre qu'ils n'exploiteront pas les malwares stockés sur l'appareil. Ce laptop ne peut être acheté qu'à des fins de recherche ou de collection. D'ailleurs, il convient de souligner que la collection Internet et les ports physiques ont été totalement désactivés pour empêcher tout risque de propagation des malwares. Donc, ils l'ont briqué, hein, le portable. Ce prix peut sembler élevé, hein, plus d'un million de dollars, mais ce laptop est en quelque sorte le dernier témoin des pires cybermenaces qu'a connu l'humanité. D'ici quelques décennies, il ne fait aucun doute que les chercheurs seront prêts à payer une fortune pour pouvoir étudier les malwares anciens qu'il contient. Espérons tout simplement qu'il ne tombe pas dans les mains d'une personne mal intentionnée. Moi, je trouve ça fascinant, terrifiant aussi. Hein. On se dit, en fait, là, il y aurait de quoi faire un épisode de Black Mirror. Dans 50 ans, le mec qui a acheté ce PC contenant les pires malwares de l'humanité trouve le moyen de le reconnecter sur l'intercom mondial et balance dans la nature des vieux virus qui, justement, comme on ne sait plus comment ils fonctionnent, on n'arrive plus à les arrêter. C'est un coup de Huawei. C'est Huawei qui va... Putain, ça serait un bon coup de com. Oui, on s'est acheté un petit portable. Hein? Ah oui, ils ont débranché la prise Internet, ouais. Attendez, je crois que j'ai un fer à souder par là. N'importe quoi, les sources de ces vieux malwares célèbres sont dispo sans souci. Oui, mais Olek, dans 50 ans, on sera peut-être avec des disques durs holographiques à base de méduses écrasées, hein, on le sait tous, qui utiliseront des formules... quantique, et on ne saura même plus lire ces vieux programmes, ces antivirus. Au moins, les groupes de médias voulant faire payer pour l'affichage des news, voient ce qui se passe si Google dit non. Ouais, exactement. Le laptop de Monsieur Robot, exactement. Dans 50 ans, on ne sera plus là. Oui, mais a priori, il y aura encore des êtres... A priori, il y aura encore des êtres humains. Sauf si on continue à faire n'importe quoi avec la planète. WannaCry, le nouvel... de Huawei. Pas mal, vous êtes créatifs dans la chatroom. Vous êtes créatif. Et voilà, c'est la fin de ce Techscope du jour du jeudi. Je vous remercie de l'avoir suivi et de l'avoir commenté avec moi. Hein. Et on va passer, on va se faire 5-10 minutes, pas plus. Il faudrait vraiment que je me barre à 9h05. Samuel, je compte sur toi pour me fouetter. Il n'y a pas de questions Platinium ce matin. Donc si vous avez des questions à me poser hein, sur les news ou sur d'autres choses, je suis là avec vous pendant 10 minutes pour clôturer cette émission. Si vous nous quittez maintenant, on se retrouve demain matin pour la suite des événements. Tu peux nous parler un petit peu plus de ces malwares? Non, en fait, j'y connais rien. Bonjour Jérôme, j'hésite entre 5 réflexes. Canon 200D, le Canon 550D, le Nikon D5600, le Nikon D5300, le Nikon D3500. Lequel me conseilles-tu pour une utilisation normale ? C'est quoi une utilisation normale ? Ça va être extrêmement difficile de te répondre. T'es débutant, tu t'y connais, tu fais plutôt des photos de vacances. Et puis alors j'avoue que c'est des modèles que je connais pas du tout, hein, Frédéric. Que j'ai jamais testé. Je pense pas que tu puisses vraiment te planter. Après, j'ai l'impression que t'es très Canon Nikon. C'est pas forcément les meilleures offres, hein, aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je pense. Là-dessus, je te conseille vraiment d'aller voir les dossiers comparatifs et les dossiers d'achat des les numériques, qui, à mon avis, sont très bien faits. Débutant pour des photos d'équitation. Les photos d'équitation, c'est pas si simple parce que t'as besoin quand même de grandes longueurs focales pour te porter loin et tu fais de la photo en mouvement. Donc, je suis pas sûr que ces appareils-là te donnent des résultats qui vont vraiment te satisfaire. Mais ouais, tu peux partir avec un boîtier comme ça. Prends plutôt des boîtiers où tu peux... Je pense que tous ces boîtiers-là ont des objectifs interchangeables. Et fais attention quand tu choisis ton objectif de kit de prendre la plus grande plage focale possible, genre un 15-150 mm. Parce que tu vas avoir besoin d'aller loin. Tu as pris quelle version du trépied Peak Design, alu ou carbone ? Carbone ! Et d'ailleurs, si vous allez sur Twitter, si vous voulez acheter le nouveau trépied de chez Peak Design qui est kickstarté, prenez bien mon lien, hein, ça aidera la chaîne. J'ai fait un Twitter il y a un jour ou deux jours, donc remontez dans mes Twitter où je parle de cette campagne Kickstarter et il y a notre lien affilié. N'oubliez pas de l'utiliser, ce serait cool pour nous si vous voulez acheter effectivement le nouveau trépied de chez Peak Design. Et moi j'ai pris le carbone, ouais. Alors, t'as pas reçu le trépied Peak Design ? Non, je fais pas partie. Des influenceurs à qui ils l'ont envoyé avant. Faut dire que je leur ai pas demandé non plus, hein, parce que j'ai pas vraiment le temps là. Je le recevrai en même temps que vous, hein, le trépied. C'est-à-dire en décembre. Au pire, Frédéric prend un pétant de pro, parce que c'est juste un appareil photo au final. Tu sais que j'ai failli la faire, celle-là, pour Honor, en disant, bah, en fait, on va juste présenter un appareil photo, quoi. Mais des photos que tu pourras pas partager. Une idée de ce que présentera Panasonic au Cinegear le 31 mai? Non, aucune idée. Ben continue à hésiter, Victan. Pour Huawei, je veux pas te donner de mauvais conseils, on n'en sait rien. J'ai perdu des commentaires là. À quand la prochaine vidéo ? Hey ! Oh ! On n'arrête pas d'en sortir des vidéos. Vous êtes trop impatients. Est-ce que vous voulez que je commence à vous faire du diary content, à sortir des vidéos comme ça tout le temps ? Non ! Alors un peu de patience. Ah, jamais content. Merci beaucoup, Julien, pour ton super chat. Tu m'as vraiment tué avec le caca dans les coins, la danse de la pluie, les araignées truffières, l'équipe de catcheurs en malware, les méduses écrasées, le plaisir de m'informer avec tout cet humour. Effectivement, si on fait une compilation de toutes les conneries que je sors, merci beaucoup, en tout cas, pour ton super chat. Ah, merci Samuel. Samuel vous a mis le lien vers la campagne Kickstarter du nouveau trépied de Peak Design, si ça vous intéresse. Jérôme, il te reste 5 minutes, oui. On est en train de travailler sur les prochaines vidéos et en fait, je vous dis ça, il y a une vidéo qui va sortir normalement ce soir. Voilà. T'es content ? Ce soir, une vidéo, oui. Enfin, normalement. Je suis bêta testeur chez Yum. C'est quoi déjà Yum ? Putain, j'ai un trou de mémoire, ça me dit quelque chose ? Si t'as pas le temps pour démarcher Peak Design, je vois pas pour quelle marque rentable pour la chaîne. Tu as le temps. Non, mais en fait, le truc, c'est que... j'essaierai peut-être. Mais le truc, c'est que c'est pas la peine que je demande à Peak Design de m'envoyer leur trépied en avance pour vous faire un test si j'ai pas le temps de faire le test. Et là, je dois avouer que mon carnet de tournage est très, très, très rempli. Mais non, attends pas que je le teste, Olek. Prends-le. Ça peut que être bien. Et tu sais très bien que dans mon test, je ne vais pas dire du mal. Non, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de la carte SAV Sony, mais je vous tiendrai au courant dans mes stories Instagram. J'ai déjà pensé à faire un montage de toutes les conneries de Jérôme, mais il y a du taf. Tu m'étonnes, John. Ah, Guillaume a annoncé qu'il sortait une nouvelle vidéo. Ah, je savais pas. Eh ben voilà, Oleg, on fera le test ensemble. Tu feras le bad cop, je ferai le good cop. Oh putain, il va souffrir le trépied. Alors, ce trépied, c'est de la merde. On vient de le balancer d'une falaise avec 500 mètres de vide. Et regardez, la peinture, là, elle est toute écaillée. Hein, c'était pas de la merde, ça. Faire un montage quand Jérôme ne dit pas de conneries, c'est encore plus compliqué, il n'y a pas de matière. Vous n'êtes pas très gentil, hein. Le prix t'a refroidi. Tu sais, hein, alors le prix du carbone est cher, mais va voir le prix des autres trépieds carbone. Je parle pas des trépieds chinois carbone, mais des trépieds carbone de marque. Ils sont dans les prix. Hein. Le carbone, ça coûte très cher. L'alu est pas si cher que ça. Encore une fois, je vais pas vous refaire la morale sur un trépied, mais si vous avez un appareil qui coûte plus de 800 euros, n'achetez pas un trépied à 50 euros sur Amazon pour le poser dessus. Hein. Après, je peux pas vous garantir que le trépied de Peak Design soit solide et tout. J'ai vu les premiers tests, il a l'air bien. Hein. Mais c'est du matériel, on va dire semi-pro. C'est pas le trépied que vous allez sortir une fois par an. C'est sûr que c'est pas rentable. Mais non, je trouve pas si cher que ça. Hein. Des bons trépieds, ça peut coûter une blinde. Est-ce que Huawei fait des trépieds carbone? Nul, on peut pas changer les roues de voiture avec, ça tient pas, c'est de la merde. Quelle différence entre du carbone chinois et du carbone de marque ? De mon expérience, les trépieds chinois, je vous le signale d'ailleurs, le trépied chinois qu'on avait testé avec Tristan, c'était il y a 3-4 ans, il a lâché au bout d'un an. Alors attention, j'aime pas dire trépied chinois. Mais voyez ce que je veux dire quand je veux dire trépied chinois. Il y a des très très bonnes marques chinoises hein, en photo et ça commence à être très très bon. Ce que je veux dire, c'est que je parle de trépied pas cher. Un trépied, vous en avez généralement vraiment pour votre argent. Et un exemple, par exemple, Manfrotto, Dans le haut de gamme, c'est plutôt des bons trépieds, mais les Manfrotto pas chers, c'est de la merde. Je vous le dis, c'est de la merde. Moi, j'avais un Manfrotto qui m'avait coûté 50-60 euros. La rotule, elle a pété en 2 ans. C'est de la merde. Et aujourd'hui, il y a des marques qui lancent des trépieds où ils vous mettent carbone, parce que carbone, c'est le truc très recherché. Donc, vous avez un trépied léger. Et je le dis parce que véridique, hein, il y en a un, je vous en ai même pas parlé. J'ai ouvert le machin, j'ai tourné le pied, j'ai entendu « ch'toing » et il y a un ressort qui est sorti. « Non, monsieur, je ne testerai pas votre produit sur la chaîne, sinon je vais le démolir. » Un jour, je ferai ça, les produits de merde. Pour l'instant, j'ai pas le temps, j'ai pas de temps à consacrer aux produits de merde. Mais un jour, on le fera. Il est 9h05, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Ouais, mais Manfrotto, honnêtement, j'ai tendance à dire, méfiez-vous du Manfrotto bas de gamme. Petit prix. D'une manière générale, méfiez-vous des trépieds, petit prix. Bon, Samuel me met à la porte. Le mec qui rejette toute la faute sur Samuel. Non, il faut que j'y aille. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vous fais des gros, gros bisous. On se retrouve demain matin, si je suis encore là. Je pense que je serai là, mais j'ai tellement de boulot aujourd'hui. J'aurai peut-être des grosses valises sous les yeux, mais je serai là demain matin pour vous présenter le dernier Techscope de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à tous.